Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, le cancer. En France, on comptait 278 000 nouveaux cas en 2002, causant cette même année 150 000 décès. Des chiffres nettement supérieurs par rapport aux années 50, une conséquence due essentiellement à l'allongement de la vie, à l'augmentation du nombre d'habitants et également conséquence de meilleurs diagnostics. Parmi les causes du cancer, le tabac est en tête avec 29 000 décès, soit 33% des décès par cancer chez l'homme et 10% des décès par cancer chez la femme. Arrive ensuite l'alcool et l'excès de poids joue aussi. Quant aux expositions professionnelles, pour leur part, elles sont à l'origine de moins de 4% des cancers chez l'homme et de moins de 1% chez la femme. Mais qu'en est-il de la pollution ? Amiante, tabagisme passif, benzène, gaz de pot d'échappement, pesticides, induisent-ils également des cancers et dans quelles proportions ? C'est sur cette question que nous allons nous pencher en compagnie de Paolo Boffetta. Paolo Boffetta, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes épidémiologiste, vous travaillez au CIRC, Centre international de recherche sur le cancer à Lyon. Vous avez participé à la rédaction en octobre 2007 d'un rapport sur les multiples causes du cancer en France, un travail en lien avec l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences, également le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, auquel vous appartenez, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer et l'Institut national de veille sanitaire. Alors, est-ce que les pesticides, engrais que l'on trouve dans l'eau, dans les pots des fruits, des légumes, la pollution atmosphérique, l'amiante, peuvent induire des cancers ? Vous allez pouvoir nous en dire plus dans quelques instants. Auparavant, je précise que ce dont nous allons parler est une petite partie du rapport. Rapport d'ailleurs qui a eu sur cette partie des critiques, vous me le disiez en préparant cette émission. Donc, ça sera l'occasion peut-être de dire un mot là-dessus. Auparavant, quelques mots peut-être pour présenter le CIRC, Centre international de recherche contre le cancer. Comment vous démarquez-vous par rapport à d'autres institutions qui travaillent également sur le cancer ? Combien êtes-vous et quels sont vos financements ?
Alors, le CIRC est un organisme international. Il est bien sûr localisé, situé en France, à Lyon, parce que la démarche initiale pour créer un centre international a été faite par le gouvernement français dans les années 60. Et la France avait offert la possibilité au CIRC d'avoir un emplacement parmi les institutions françaises. Mais nous sommes un centre international. Actuellement, on a 20 pays qui participent au centre. Il y en a d'autres qui vont bientôt y participer aussi. Le but est de coordonner la recherche à niveau international et pas tellement de répéter ce que peut être fait très bien dans les centres nationaux, surtout dans les grands pays comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, mais de pousser, de promouvoir des recherches qui sont mieux conduites à niveau international, en collaboration entre chercheurs de différents pays, et notamment dans les pays en voie de développement, dans lesquels il y a un grand problème de formation, de transfert de technologies et tout ça. Alors, il y a eu des domaines dans lesquels cette vocation internationale a naturellement évolué, notamment celle de l'épidémiologie, c'est-à-dire d'avoir des données fiables sur la fréquence des différents cancers des différentes populations du monde et sur les causes de cancers dans les différentes populations. Il y a aussi toute la partie de génétique qui a un évident intérêt pour des comparaisons, pour des études faites dans différents pays, à niveau international, différents régions du monde, différentes races de populations et tout ça. Du point de vue du financement, on a, comme j'ai dit, 20 pays qui sont membres et on a un budget qui est décidé par le gouvernement, par les 20 gouvernements qui composent notre conseil de direction. Il faut aussi dire que nous faisons partie de l'Organisation mondiale de la santé, de l'OMS. Nous sommes une agence, un centre spécialisé de l'OMS, justement pour ce qui concerne la recherche sur le cancer. La partie développement de plans de lutte contre le cancer dans différents pays est par contre déléguée à l'OMS. On travaille en lien très étroit avec l'OMS pour pouvoir développer des programmes de prévention de cancer qui sont basés justement sur la recherche, sur nos recherches et sur les recherches faites dans d'autres pays.
Dans cette émission, nous allons nous intéresser plus particulièrement du lien de cause à effet entre la pollution et les cancers. Il se dit beaucoup de choses. 2014, vous avez travaillé en partie sur ce sujet-là. Nous allons donc parler du tabagisme passif qui fait partie de la pollution atmosphérique, des pesticides, également des traitements, des produits chlorés pour stériliser l'eau. Mais débutons, si vous le voulez bien, par un sujet qui suscite toujours la controverse, c'est l'amiante. L'amiante, il y a encore très peu de temps, un article dans le Nouvel Observateur daté du 29 novembre 2007 titrait « Les amiantes de Jussieu, campus de Jussieu ». Les amiantes de Jussieu, déjà 22 morts et 130 malades. Alors, qu'en est-il du lien entre cancer et amiante, et dans quelle proportion on peut attribuer des cancers, conséquences de l'amiante?
Alors, la cancérogénicité de l'amiante est bien connue depuis les années 70. Ça fait une bonne trentaine d'années, même plus, qu'on sait que l'amiante cause des mésothéliomes de la plèvre. C'est un cancer très rare au dehors des situations d'exposition à l'amiante, et aussi le cancer du poumon, et probablement aussi d'autres cancers, cancer du larynx notamment, peut-être d'autres, mais sûrement le cancer du poumon et le cancer de la plèvre. Alors, les études qui ont démontré ça ont été menées chez des travailleurs exposés dans différents types d'industries à l'amiante, notamment dans les mines d'amiante, dans les usines qui produisent de différents produits à base d'amiante, mais aussi chez les utilisateurs, les gens dans les bâtiments, les gens qui réparent des voitures parce que les plaquettes de frein autrefois contenaient de l'amiante et tout ça. Là, la notion de la cancérogénicité de l'amiante a amené beaucoup de pays, et notamment la France en 96, à interdire l'amiante, l'utilisation d'amiante. Et le nombre de travailleurs, le niveau d'exposition a beaucoup, beaucoup diminué, heureusement. Même avant l'interdiction et évidemment aussi après. Mais on observe encore aujourd'hui un nombre important de cancers liés à l'exposition dans le passé, parce que l'amiante, comme beaucoup d'autres cancérigènes, a un temps de latence très important entre l'exposition et la survenue du cancer, le développement du cancer suite à cette exposition, qui peut aller jusqu'à 30, 40 ans. Alors, on verra encore beaucoup de cancers dus aux expositions professionnelles à l'amiante. Là, il n'y a pas beaucoup de controverses là-dessus. Je pense que tout le monde reconnaît ça, reconnaît que c'est un problème très important. C'est probablement le cancérigène professionnel le plus important dans les différents pays européens. Et on est en train de voir la fin de l'épidémie due à l'exposition professionnelle.
Mais vous mettez en avant dans le rapport, quand je dis vous, hein, c'est l'ensemble de l'équipe, hein, je oui. Parle pas à vous, monsieur Boffetta, mais il est mis en avant que les chiffres ont pu être gonflés. Vous expliquez, la fraction de la population exposée à un air fortement pollué avait été estimée dans un rapport de l'OMS en 87 à 5%. Cette proportion a été contestée et est vraisemblablement inférieure à 1%.
Oui, alors, ce qui est beaucoup plus difficile à quantifier, à donner des chiffres, est l'effet de la pollution, de l'exposition non professionnelle à l'amiante, c'est-à-dire l'exposition que tout le monde peut avoir, peut expérimenter, suite au fait que l'amiante est maintenant un petit peu présent dans un petit peu partout, surtout dans les villes, suite au fait qu'il a été utilisé dans beaucoup de produits qui ont été placés dans les bâtiments, qui ont été utilisés dans d'autres secteurs. Ça est beaucoup plus difficile à étudier parce que les niveaux sont beaucoup plus faibles. Le nombre de personnes est exposé beaucoup plus important. En principe, tout le monde est exposé à des niveaux relativement faibles. Alors, il y a eu des études qui ont été menées dans des populations avec une exposition environnementale plus importante, notamment les gens qui habitaient à côté d'usines de produits d'amiante, par exemple. Et là, justement, cette étude a montré qu'il y a des cas d'amiante chez des gens qui n'ont jamais travaillé directement avec ces produits, mais qu'ils ont vécu dans des situations d'exposition environnementale relativement importantes. Et surtout pour ce qui concerne le mésothéliome de la plèvre, le risque du cancer de la plèvre, qui, comme je disais, est très, très rare. Alors, si on trouve 4, 5, 10 cas dans une population qui habite dans une petite ville, dans un village où il y a une source d'exposition importante, c'est très raisonnable de penser que c'est justement l'exposition environnementale qui a causé ces cancers. Et ça a été montré dans plusieurs endroits, et notamment l'exemple de Jussieu dont l'article du Nouvel Observateur dont vous parliez reprend, est justement un cas, une situation d'exposition environnementale à l'amiante, parce que l'université de Jussieu était calfeutrée avec de l'amiante, et les gens qui ont vécu là-bas, qui ont travaillé là-bas pendant plusieurs années, ont justement été exposés à ça. Et justement, on voit maintenant l'effet de cette exposition. Alors, le problème est de dire comment on peut faire pour extrapoler à partir de ces situations très ponctuelles, comme la ville où il y a l'usine d'amiante, l'université ou l'autre grand bâtiment qui était particulièrement pollué à des niveaux très importants, tout ça. Comment, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la population générale qui n'a pas de source très importante d'exposition? Et c'est là où cette estimation de 5% des gens exposés à des niveaux importants peut être discutée. Alors, nous sommes arrivés avec des chiffres relativement faibles, mais c'est probable qu'il y a entre 10 à 20% de mésothéliomes qui sont causés justement pour des expositions non professionnelles à l'amiante.
Qu'en est-il, pour terminer sur cette question de l'amiante, des groupes qui sont pro-amiante, j'ai trouvé ça en préparant cette émission, qui sont pour une réhabilitation de manière modérée de ce produit?
Alors, il y a deux types d'amiante. Il y a deux types très différents d'amiante. Ce qu'on appelle les chrysotiles, ou amiante brun, et ce qu'on appelle les amphiboles, qui est une famille, les crocidolite et l'amosite étaient les deux types principaux d'amphiboles. Alors, les amphiboles, crocidolite et amosite, sont très, très cancérigènes, causent de cancer à la fois du poumon et de la plèvre à des niveaux très importants. Et l'utilisation de ces produits est maintenant interdite pratiquement partout dans le monde. Les mines d'amphiboles étaient uniquement en Afrique du Sud et en Australie, et les mines maintenant sont fermées depuis une dizaine d'années. La controverse dont vous parlez est à propos du chrysotile. Le chrysotile est sûrement moins cancérigène que les amphiboles. Cependant, il pose aussi un risque, moins important, mais présent. Dans un pays comme la France, à peu près 90% de l'amiante qui a été utilisée était du chrysotile. Et probablement, ce que nous voyons comme cas de cancer sont les gens qui ont été exposés surtout aux amphiboles. Notamment à Jussieu, il y avait une contamination qui comprenait aussi des amphiboles. Alors, il y a des gens qui disent, bon, si on peut enlever les amphiboles et utiliser que du chrysotile, le risque est négligeable. Et le CIRC ne pense pas ça du tout. Il pense que le risque est sûrement plus faible. On peut discuter si des produits de substitution sont aussi cancérigènes que les chrysotiles ou pas, mais sûrement les chrysotiles ne peuvent pas être considérés comme un produit sûr qui cause pas un risque de cancer. C'est très important d'interdire les amphiboles, mais c'est aussi important de ne pas utiliser, de ne pas être exposé aux chrysotiles, je pense.
Alors, autre cause de cancer, dans le cas des cancers liés avec la pollution, le tabagisme passif. On sait que les effets cancérogènes sont avérés, ça c'est une information qu'on sait. Mais alors, suivant si ce sont des adultes, des enfants, ou suivant également l'environnement, si c'est le lieu de travail ou le lieu, l'unité familiale, ça va induire de manière plus ou moins importante des cancers.
Oui, alors l'évidence est conclusive uniquement pour le cancer du poumon. Pour les autres cancers, notamment le cancer, d'autres cancers liés au tabagisme actif, comme le cancer de la vessie, le cancer des voies aériennes digestives, il y a des données qui sont pas aussi fortes que pour le cancer du poumon. Alors, on parle que du cancer du poumon, vraiment, quand on parle du tabagisme, des effets cancérigènes du tabagisme passif chez les non-fumeurs. Et là, l'évidence a été jugée suffisante pour conclure qu'il y a effectivement un lien de causalité entre l'exposition et le développement du cancer, par le CIRC notamment, mais aussi par d'autres institutions comme l'Académie nationale de sciences aux États-Unis. Alors, à nouveau, le problème est que c'est une exposition à laquelle une grande partie de la population est soumise. En principe, tout le monde, mais bon, la plupart des gens à des niveaux relativement faibles. Il y a des gens qui sont exposés ou qui ont été exposés à des niveaux plus importants, notamment ceux qui vivaient avec un fort fumeur. Typiquement, c'était la femme non fumeuse avec un mari qui était un fort fumeur, quelquefois aussi l'inverse, mais plus fréquemment dans ce cas-là. Et aussi des gens qui travaillaient dans des locaux relativement petits avec un nombre important de fumeurs. Il y a eu des études de biomarqueurs, c'est-à-dire de rechercher les produits du tabac dans les urines, par exemple, qui ont montré que justement l'exposition domestique, l'exposition sur le lieu de travail étaient les deux sources plus importantes. D'autres sources d'exposition comme les lieux publics, les bars, les restaurants ou les transports en commun quand on pouvait fumer dans les trains, dans les bus, contribuaient aussi, mais beaucoup moins.
Mais est-ce que l'on sait quelle quantité de fumée, à partir de quand, à partir de quelle quantité on va pouvoir risquer la vie de l'autre?
J'ouvre un petit peu une parenthèse générale ici, mais pour la grande partie des cancérigènes connus, Il y a une relation dose-réponse linéaire, c'est-à-dire il n'y a pas une dose qui n'entend pas un risque accru. Il y a peut-être, pour les radiations, c'est peut-être différent, mais disons pour les cancérigènes chimiques, comme les cancérigènes du tabac,
il n'y a
etc.
pas de seuil.
Il n'y a pas de seuil. Alors, pour les cancérigènes très puissants, comme le tabagisme actif, on peut observer ça parmi les gens. On peut voir que les gens qui fument même une cigarette par jour ont un risque accru par rapport à ceux qui ne fument pas. Chez les tabagistes passifs, chez les non-fumeurs exposés aux tabagistes passifs, évidemment, c'est beaucoup plus difficile parce que les niveaux sont beaucoup plus faibles. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un seuil au-dessous de laquelle il n'y a pas de risque. Évidemment, le risque est très très faible, il peut être considéré négligeable du point de vue d'autres risques à lesquels on est exposé tous les jours, mais on n'a pas vraiment un seuil. Par contre, la puissance des études épidémiologiques de démontrer un risque s'avère uniquement à partir de quelque chose de l'ordre de, disons, être exposé à 5-10 heures par jour pendant plusieurs années de la vie. Alors, il y a vraiment des expositions qui sont très importantes, des gens qui ont vécu toute leur vie avec un fort fumeur, des situations comme ça. Alors là, on arrive à montrer effectivement qu'il y a un risque. Mais tout ce qu'on connaît sur la cancérigénicité du produit du tabac, qui sont contenus dans le fumée de tabac, nous pourrons penser que même pour des niveaux plus faibles, il y a un risque qui est plus difficile à détecter.
Pour appuyer vos propos, je reprends les chiffres du rapport. Il est expliqué que la proportion de personnes n'ayant jamais fumé, qui sont exposées au domicile au tabac de leur conjoint, est de presque 13% pour les hommes et de 62% pour les femmes. Et sur le lieu de travail, ces proportions sont de presque 57% pour les hommes et de 53% pour les femmes.
Oui, ça sont des données qu'on a extraites, qu'on a retirées d'une étude européenne multicentrique qui avait été faite dans les années 80, début des années 90. Ce pourcentage-là que vous avez mentionné sont les gens qui ont été exposés à des niveaux relativement importants, disons. Comme je disais, la grande partie de la population est exposée à des niveaux très faibles. On a pris en compte les données à partir d'une étude dans laquelle les gens, des non-fumeurs, ont dit combien d'heures par jour étaient exposées, combien de cigarettes étaient fumées par les conjoints, etc., etc.
Pour terminer sur cette première partie, après nous marquerons une pause, il est expliqué que le tabagisme passif cause environ 220 décès par cancer du poumon en France, des 220 décès par an. Qu'en est-il des enfants? Est-ce qu'il y a des résultats qui montrent que des enfants dont les parents, soit le père, soit la mère, ou les deux, sont fumeurs à un niveau élevé, est-ce que ça va toucher les organes de l'enfant et provoquer peut-être plus tard un cancer?
Oui. Alors d'abord, je voudrais préciser que les chiffres dans le rapport que vous mentionnez pour le tabagisme passif, mais pour les autres facteurs aussi, sont de... Notre intention n'était pas de donner des chiffres exacts à la virgule près. C'était vraiment de donner une ordre de grandeur. Alors quand on dit 220, ça veut dire que c'est probablement quelque chose entre 10 et 1000. C'est pas 10 000 et c'est pas 2 non plus. C'est vraiment l'ordre de grandeur de ce type d'exposition par rapport aux autres. Après, je peux pas être sûr que c'est bien 220 et pas 230 ou même 300, oui. Alors, ça, c'était une précision générale. Pour ce qui concerne l'exposition dans l'enfance, il y a eu des études beaucoup moins cohérentes là. Et pour le moment, on ne peut pas conclure qu'effectivement, il y a un risque accru de cancer. D'abord, il n'y a pas un risque accru du cancer dès l'enfant, pendant l'enfance, suite au tabagisme des parents. Pour ce qui concerne la survenue d'un cancer à l'âge adulte suite à l'exposition dans l'enfance, là, les données sont moins cohérentes, comme je disais. Alors, pour le moment, ça, on l'a exclu, on l'a pas pris en compte, même si c'est tout à fait raisonnable, c'est tout à fait plausible ce que vous disiez, qu'effectivement, on peut y avoir un effet plus tard dans la vie.
Je vous propose de marquer une pause, Paolo Boffetta, et dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons plus particulièrement des hydrocarbures, des pesticides et puis des produits chlorés pour l'eau. À tout de suite.
Thank you.
Suite de notre émission éclairage, toujours en compagnie de Paolo Boffetta, épidémiologiste qui travaille au CIRC, Centre international de recherche contre le cancer, et le CIRC qui était donc à l'origine, avec l'Académie nationale de médecine, l'Académie des sciences et d'autres instituts de recherche contre le cancer, d'un rapport sur les causes du cancer en France, un rapport qui a été remis en octobre 2007. Dans cette deuxième partie d'émission, Paolo Boffetta, nous allons peut-être plus parler particulièrement des hydrocarbures, brûlés ou non, et de leur incidence bien sûr au niveau des cancers, également des pesticides et des produits chlorés pour stériliser l'eau. Là, c'est une information qui semble un peu plus originale. Mais tout d'abord, sur les hydrocarbures, que savons-nous par exemple sur le benzène? Est-ce que le benzène peut jouer d'une manière ou autre sur notre organisme?
Oui, le problème du benzène comme polluant atmosphérique, comme polluant de l'air, est assez proche de ce dont on parlait tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure par rapport à l'amiante non professionnel, c'est-à-dire qu'il s'agit là d'un cancérigène avéré qui a été démontré causer de cancers, notamment de leucémie, chez des travailleurs qui ont été exposés à des niveaux importants. Et le problème est d'arriver à une quantification du risque pour des niveaux d'exposition qui sont beaucoup, beaucoup plus faibles, qui sont les niveaux qu'on peut rencontrer dans des villes où l'air est pollué avec benzène et d'autres hydrocarbures. Et là, le problème est justement qu'on n'arrive pas à avoir des conclusions certaines pour quantifier ces risques. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un risque, absolument, mais on ne peut pas dire qu'il y a autant de cancers, autant de leucémies, notamment, qui sont causés par le benzène comme polluant atmosphérique, par l'exposition non professionnelle au benzène. Et ça, c'est le cas d'autres facteurs aussi, parce que l'air urbain contient d'autres cancérigènes, contient des métaux lourds, par exemple, le chrome, le cadmium, qui sont aussi des cancérigènes. Mais c'est très difficile de dire combien de cas de cancer peuvent être causés là. Et quand on a cette grande incertitude, on peut justement aller dans différentes directions. On peut faire des scénarios d'exposition pour lesquels on pense qu'il y a une certaine proportion de gens qui sont exposés à des niveaux suffisants pour causer des cancers. On peut faire aussi de donner des fourchettes, etc. Et là, c'est là qu'il y a un petit peu d'incertitude, de débat et de polémique sur ces données.
Alors encore des chiffres, puisque nous adorons les chiffres ici. Une étude récente effectuée sur 4 villes françaises, Paris, Grenoble, Rouen et Strasbourg, en 2005, a estimé qu'environ 10% des cancers du poumon pouvaient être dus aux particules, donc ce que l'on retrouve dans les gaz d'échappement. Est-ce qu'en d'autres termes, ça voudrait dire que on a plus de cancers quand on habite dans une ville avec beaucoup de voitures qui stationnent, qui restent dans les embouteillages?
Oui, alors d'abord, les particules fines ne sont pas uniquement provoquées par le trafic. C'est une source importante, mais pas uniquement. D'autre part, c'est vrai qu'il y a eu 3 études aux États-Unis qui ont montré une petite augmentation du risque de cancer du poumon pour les gens qui habitaient dans des villes où le niveau de particules fines était plus élevé. Il y a encore quelques problèmes dans l'interprétation de ces données. Par contre, il y a eu une étude européenne qui n'a pas montré ça, pour laquelle les données sont négatives. Alors, si on prend en compte les études américaines, il y a encore quelques problèmes dans l'interprétation de ces résultats, notamment d'être sûr que le fait que les gens qui sont exposés à des niveaux plus importants de polluants environnementaux, comme les particules, sont aussi plus fréquemment des fumeurs. Ce qu'on appelle la confusion, le tabagisme comme facteur de confusion dans l'association entre les particules fines, les polluants environnementaux et le cancer du poumon. Alors, c'est pour ça que nous avons préféré de ne pas prendre en compte les particules fines comme facteur de risque de cancer environnementaux. Et par contre, l'étude française que vous avez mentionnée a pris les résultats des études américaines et les a appliqués directement au niveau d'exposition en France. Et la vérité probablement entre les deux, c'est-à-dire que c'est plausible du point de vue biologique et tout ça, que les particules fines qui contiennent des cancérigènes causent un certain nombre de cancers, notamment chez les non-fumeurs. Comme pour beaucoup d'autres facteurs, pas seulement liés à la pollution, mais d'autres facteurs suspectés de causer le cancer, nous n'avons pas donné des chiffres si on n'était pas sûr qu'on pouvait justement arriver à des chiffres raisonnables.
Alors, les hydrocarbures, avant de passer dans les pots d'échappement, peuvent également nous nuire. Je recite encore ce rapport. Une étude française a rapporté un excès de risque de leucémie chez les enfants vivant à proximité des stations d'essence et des routes. Et également une étude italienne qui a trouvé une augmentation des leucémies chez les employés des stations d'essence. Est-ce que c'est parce qu'il y a un lien direct ou ce sont les émanations des vapeurs?
Oui, alors, justement, ça c'était lié au benzène. Le benzène, c'est le responsable numéro un qui est pris en compte. Bon, je recommence. Ça, cette étude a été faite justement pour voir si le benzène dérivé de surtout de l'essence, de combustible utilisé pour le véhicule, peuvent être la cause de cancer. Alors, les deux études que vous avez mentionnées, présentant dans le rapport, sont une sélection parmi beaucoup d'autres études qui ont été faites. Et les différentes études ont pris en compte différents types d'expositions, justement le fait de vivre à côté de grands axes de circulation par rapport au fait de travailler dans les stations d'essence, par rapport à d'autres façons d'être exposé au benzène dans l'air environnemental. Et les résultats de ces études ne sont pas cohérents. Il y a une étude ici qui est positive pour un type d'exposition, mais négative pour l'autre. Après, il y a une autre étude qui est négative pour le deux. Après, il y a une troisième étude qui est positive pour le fait de vivre à côté des routes, mais pas de travailler, tout ça. L'étude, notamment, que vous avez mentionnée, italienne, ne trouve pas de lien, un lien avec le fait d'habiter à côté des routes, qui est complètement à l'opposé de ce qu'on a trouvé dans l'étude française. Alors, nous avons mentionné ces études justement pour montrer la complexité de ce type de travaux et les difficultés d'arriver à des conclusions certaines. Dans nos estimations, nous avons retenu que les facteurs de risque, les expositions qui ont été jugées être sûrement cancérigènes par des organismes internationaux, notamment par le CIRC. Et le fait d'habiter à côté d'une rue par rapport à l'exposition au benzène n'est pas parmi ces sources d'exposition.
De même, habiter à proximité d'incinérateurs, il y a un risque alors également, habiter à proximité d'incinérateurs. Les risques varient de 1 à 10%. Je reprends également les chiffres du rapport.
Oui, mais il y a la vision la plus récente qui a repris toutes les études faites parmi les gens qui habitent à côté des incinérateurs, montre justement qu'il n'y a pas une cohérence entre les résultats, qu'il n'y a pas un effet qui est vraiment démontré. Alors, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est pas un problème, qu'il faut négliger ce problème. Il faut évidemment réduire les possibilités d'être exposé à des cancérigènes. Il faut étudier les choses et dans le rapport, on donne beaucoup d'indications, beaucoup de lignes pour améliorer nos recherches aussi dans le champ de l'identification des facteurs environnementaux. Mais ça, c'est une chose, mais de dire qu'on est sûr qu'il y a beaucoup de cancers qui peuvent être attribués à ces facteurs ou l'autre, c'est autre chose.
Autre élément qui est bien sûr très intéressant, ce sont les produits chlorés pour stériliser l'eau. De quelle manière ça peut nous gêner dans notre vie de tous les jours?
Alors, je ne sais pas si c'est une gêne dans la vie de tous les jours, mais alors, on parle justement beaucoup de la pollution de l'air, mais finalement, il y a pas mal d'études qui ont montré que la consommation d'eau chlorée peut entamer un risque de cancer de la vessie.
Mais c'est l'eau de la piscine? À quelle eau ça correspond?
Alors, les études ont surtout étudié la consommation d'eau comme boisson. L'eau chlorée est consommée comme boisson. Après, c'est vrai que l'exposition à l'eau chlorée, à la fois dans la piscine ou par exemple dans la douche, dans la salle de bain, peut aussi être une source importante d'exposition. Alors, le chlore utilisé pour la désinfection de l'eau forme des composés qui sont appelés trihalométhane, quand il entre en contact avec des produits qui sont présents en petite quantité dans l'eau, des produits organiques. Ce sont différents composés, et il y a le chloroforme notamment, mais il y en a d'autres qui ont à la fois du chlore et du brome dans la molécule. Ces produits-là sont des cancérigènes expérimentaux, ils causent des cancers chez l'animal, et c'est À nouveau, c'est une chose plausible qu'il y ait un risque augmenté pour les gens qui ont consommé beaucoup d'eau chlorée. Les études ont essayé de comparer les gens selon leurs sources d'eau. Il y a surtout aux États-Unis des différentes villes qui utilisent différents procédés de chloration qui causent des niveaux plus ou moins importants de ce produit de dégradation, disons, de composés organiques en combinaison avec le chlore. Si on regarde toutes ces études ensemble, on voit qu'il y a une petite augmentation du risque de cancer de la vessie. Alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut arrêter la chloration de l'eau, parce que la chloration de l'eau nous protège de beaucoup d'autres maladies qui causeraient beaucoup plus de décès sûrement qu'une petite augmentation du risque de cancer de la vessie, mais c'est un exemple de la complexité du chapitre pollution et cancer. Il y a beaucoup de facteurs qui sont peut-être même plus importants de ce qu'on pense tout le temps, comme justement les benzènes ou la pollution de l'air, pour lesquels il faut arriver à avoir des réponses. On a fait des simulations dans notre rapport, on a vu que justement, si effectivement c'est vrai que ce lien entre la chloration de l'eau et le cancer de la vessie est réel, le nombre de cancers de la vessie causés par ça, dans un pays comme la France, peut être plus important même que le nombre de cancers du poumon causés par la pollution de l'air. Et tout le monde pense à la pollution de l'air et personne pense à d'autres sources de pollution.
Et là, en l'occurrence, utiliser des produits chlorés, ce n'est pas une question de pollution. C'est justement pour rendre l'eau accessible à tous.
Oui, mais ça fait partie d'une certaine façon de la pollution parce que c'est une exposition pour laquelle les gens sont pas... C'est pas volontaire, c'est pas choisi par les gens, oui. On pourrait penser à d'autres façons de désinfecter l'eau, même si c'est plus cher, probablement. Le fait que ça peut poser un problème au niveau du cancer est confirmé.
Dernier élément que je vous proposais d'évoquer au cours de cette émission, même s'il doit y en avoir certainement plus, et nous aurons l'occasion de parler des connaissances limitées et qui font que nous évoquons quelques exemples, mais c'est des exemples parmi d'autres. Dernier élément, les pesticides. Il y a là aussi des cancérologues qui disent que les pesticides sont cancérigènes, d'autres qui ne le pensent pas. Encore récemment, je fais référence aux Antilles, il y avait un rapport qui disait que justement les causes de cancer de prostate et de baisse de la fécondité étaient induits à une consommation de pesticides. Il a après été contredit, ce rapport, mais il a existé et il a été publié par un cancérologue pour le coup. Alors, qu'en est-il justement du rapport, du lien de cause à effet entre pesticides et cancer?
Oui, alors il y a certains pesticides qui ont montré, surtout ceux qui ont été utilisés dans le passé, qui ont été montrés qu'ils pouvaient causer le cancer chez l'animal dans des conditions expérimentales. Tous ces produits-là ont été éliminés, ne sont plus utilisés depuis très longtemps. Tous les pesticides qui sont utilisés aujourd'hui ne sont pas positifs chez l'animal, ils ne sont pas des cancérigènes, chez l'animal. Toutes les études faites sur les travailleurs, soit les travailleurs qui fabriquent les pesticides dans les sites chimiques, soit les utilisateurs, ont été négatifs. Bon, il y a des suspicions ici et là, mais en gros, il y a aucune pesticide qui a été montré être cancérigène chez l'homme. C'est pour ça que nous n'avons pas attribué des cancers aux pesticides. Et suite aux démarches dont je parlais tout à l'heure, qu'on a retenu que les facteurs pour lesquels on a une évidence qui a été jugée suffisante par les organismes internationaux. Pour les pesticides aussi, ça ne veut pas dire qu'on est sûr qu'il n'y a pas un risque de nulle part. Mais on ne peut pas aujourd'hui identifier un pesticide particulier qui est cancérigène.
Vous voulez dire en d'autres termes que vous ne faites aucune affirmation, dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire que les pesticides, finalement, on ne sait pas s'il y a un lien plus ou moins important avec les cancers.
Ce qu'on dit est qu'on n'a pas de pesticides qui sont des cancérigènes reconnus chez l'homme. Alors, si on décide d'attribuer des cancers aux cancérigènes reconnus, on ne peut pas attribuer des cancers aux pesticides. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sûr que tous les pesticides ne sont pas cancérigènes. C'est très peu probable qu'ils soient une cause très importante du cancer, parce que les causes très importantes du cancer, on les connaît aujourd'hui.
Alors, qu'en est-il justement des Antilles en septembre-octobre 2007? Qu'en est-il de ce rapport?
Moi, je préfère ne pas rentrer dans ce sujet parce que c'est un rapport français qui a été commenté par des autorités françaises, mais sûrement...
Mais il a été contredit, ce rapport.
Oui,
il a été très contredit, donc il y a vraiment les deux parties, il y a deux clans, quelque part.
Le problème est qu'on ne peut pas, je pense, passer d'une suspicion à une certitude. Il faut reconnaître les limites de nos connaissances. Il faut voir où il faut essayer d'étudier en priorité des facteurs de risque qui sont importants, soit du point de vue scientifique, soit du point de vue social ou politique. Mais on ne peut pas forcément arriver à dire qu'on connaît des choses pour lesquelles on a encore beaucoup d'incertitudes. Je pense que dans le cas de du cancer de la prostate, le pesticide de rapport pour les indices, on était un petit peu dans ce cas-là.
On n'a pas d'explication finalement pour dire pourquoi il y aurait une augmentation là-bas plus qu'ailleurs de le cancer de la prostate.
L'explication plus plausible est qu'il y a une population noire plus importante. Les populations noires sont connues pour avoir un risque accru du cancer de la prostate, probablement pour les causes génétiques qu'on commence à connaître ces gènes. À nouveau, ça ne veut pas dire que c'est sûr que les pesticides ne sont pour rien, mais il y a d'autres explications aussi plausibles.
Pour terminer cette émission, justement, vous vouliez revenir, lors de notre pause, nous avons discuté un peu, vous vouliez revenir sur ces connaissances limitées. Bien sûr, les connaissances avancent, mais les connaissances limitées qui fait qu'on ne peut pas avoir d'affirmation en disant il n'y a que ces facteurs de pollution qui amènent à des cancers. Et qu'il peut y en avoir d'autres, et les facteurs peuvent être accrus ou non.
Oui, alors notre rapport vraiment a choisi la démarche d'attribuer des cancers aux causes reconnues. Et pour cela, on est arrivé à attribuer à peu près la moitié des cancers, des décès de cancer par cancer chez l'homme, et à peu près un quart, en gros, chez la femme, qui a beaucoup dessus, beaucoup de monde, parce que on pensait qu'on pouvait expliquer beaucoup plus. Dans ce cadre général, la pollution a une partie relativement faible. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, et sûrement on ne connaît pas toutes les causes liées à la pollution, toutes les causes de cancer liées à la pollution. On a discuté quelques exemples, et c'est très plausible, par exemple, qu'il y a un certain nombre de cancers dus à la pollution de l'air, aux particules fines dans l'air. Mais aujourd'hui, nous pensons qu'on n'est pas capable de donner un chiffre précise parce qu'on a trop d'incertitudes sur trop de facteurs qui portent à ces calculs. Alors, on attribue des cancers qui aux facteurs pour lesquels les connaissances sont suffisamment claires. Ça ne veut pas dire que la pollution ne joue aucun rôle, mais il faut aussi dire que c'est très peu probable qu'il joue un rôle très important, parce que s'il jouait un rôle très important, comme le tabac, comme l'alcool, on le connaissait. On aurait été capable. Il y a eu beaucoup d'études. Et le fait que dans une grande partie des situations, par exemple les pesticides ou le fait d'habiter à côté des axes de circulation, tout ça, de tous les exemples qu'on a évoqués, le fait que dans tous ces cas-là, on n'est pas arrivé à des conclusions claires, montre que probablement le risque n'est pas très important. C'est beaucoup plus facile de trouver des risques importants que de trouver des risques faibles. Et les risques importants pour le cancer, on les a trouvés, probablement, et dans notre rapport, on a essayé de les quantifier. Ce qui reste à découvrir sont des risques faibles, notamment il y aura quelques-uns liés à la pollution, il y aura d'autres liés à l'alimentation, liés à d'autres choses. Et aux hormones, par exemple, il y a aux facteurs biologiques, aux infections et tout ça. Il y a beaucoup d'autres chapitres pour lesquels il faut avancer dans nos connaissances. Et la pollution est parmi eux, évidemment, mais pas le seul et pas les facteurs qui expliquent tout ce qu'on ne connaît pas.
Eh bien, je vous remercie, Paolo Boffetta, d'être venu nous voir. Je précise que vous veniez de Lyon, vous venez du CIRC, Centre international de recherche contre le cancer, et que vous êtes épidémiologiste, médecin, oncologue, et que vous avez travaillé sur ces questions à l'occasion d'un rapport qui a été donc remis en septembre-octobre 2007, les causes du cancer en France. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
C'est bon, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.